Oui, Jean-Phi, cette émission au sein du Parc diocésain de Gap de la Journée mondiale des réfugiés qui se poursuit jusqu'à midi sur Alpe 1. Et j'ai le plaisir d'accueillir à notre micro Kumba. Bonjour Kumba.
Bonjour.
Vous avez 23 ans.
Ben oui.
Vous êtes au sein du CADA, le centre d'accueil de demandeurs d'asile. Vous venez du Mali et j'ai eu le plaisir de rencontrer Fatoumata, votre petite fille de 2 mois, qui est magnifique.
Non, merci.
C'est un véritable bijou, cette petite fille. En parlant, juste avant de prendre l'antenne, je vous ai demandé, ça fait depuis combien de temps que vous êtes arrivée, et vous m'avez dit la date précise de votre arrivée, 24 novembre 2024. Voilà. Vous êtes donc en demande d'asile. Comment ça se passe, l'accompagnement au sein du CADAM? Vous m'avez dit, moi, je me sens absolument pas isolée.
Non, je ne le suis pas parce que je suis accompagnée par deux magnifiques assistantes, une juridique d'Oriane et l'autre sociale d'Oriane et une juridique qui est Laurie. Elles sont gentilles et nous accompagnent à peu près dans tout. La juridique s'occupe de notre demande d'asile. Elle nous montre les marches à suivre, les règles qu'on doit respecter. Et l'autre sociale s'occupe de tous nos démarches, que ce soit pour les rendez-vous à l'hôpital, que ce soit les activités sportives, pour l'apprentissage du français. Elle nous accompagne à peu près dans tout.
Vous m'avez dit, vous avez une formation d'enseignante.
Oui, je l'ai eu au pays, au Mali. Et j'ai fait 4 ans pour devenir enseignante.
Oui.
J'ai eu mon diplôme et suite à beaucoup de choses, je suis venue ici.
Oui, vous êtes...
J'ai dû abandonner mon métier, oui.
Vous avez dû abandonner votre métier?
Oui.
Vous espérez le retrouver?
Oui, beaucoup.
Ça fait partie de votre objectif?
J'aimerais
de devenir
beaucoup.
Enseignante?
Oui, ça me manque... cette communication que j'avais avec les enfants, mes élèves, et j'aimerais les retrouver.
Oui. On le sent en effet que vous êtes beaucoup dans la communication et dans la pédagogie. Mmh. Et vous m'avez dit juste avant, qu'est-ce qui change ici, c'est que je me sens en sécurité.
Oui, parce que de ce que j'essaie, ici on a dit que c'est un pays des lois. On ne se sent pas isolé, c'est la fraternité. Au début, je pensais que j'allais être toute seule, mais la différence de peau n'a rien changé finalement.
Vous n'êtes pas seule?
Non, je me suis intégrée et les gens, ils nous acceptent tels qu'on est.
Oui.
Oui, je sais qu'on n'est pas parfait, mais on fait avec.
Qu'est-ce que vous souhaitez pour votre petite fille, qui a 2 mois, alors elle est toute petite, mais en tout cas, qu'est-ce que vous lui souhaitez?
J'aimerais qu'elle soit en sécurité d'abord, qu'elle se sente aimée et protégée, qu'elle puisse bénéficier des soins et d'une bonne scolarité, qu'elle puisse avoir un avenir meilleur.
Merci beaucoup Kumba, d'avoir partagé votre récit, votre témoignage sur Alpe 1.
Merci
et je vous souhaite tout le bonheur à vous et puis à votre petite fille.
Merci
qui
beaucoup.
Dort bien là, elle est bien installée.
Elle l'est, oui.
Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Et puis, quant à vous auditeurs, n'hésitez pas à venir aujourd'hui entre 10h et 16h du côté du parc diocésain de Gap pour cette journée mondiale des réfugiés qui se poursuit jusqu'à midi avec la Déloc d'Alpe 1. A tout de suite. Et cette Déloc d'Alpe 1 qui se poursuit jusqu'à midi au sein du parc diocésain de Gap où se déroule actuellement la journée mondiale des réfugiés. Odile, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coprésidente de l'association Réseau Hospitalité Hautes-Alpes.
Oui.
Vous avez été véritablement fondée, on va dire, en
2021.
Vous exercez sur le Gapençais. On en parlait juste avant de prendre l'antenne. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est que vous êtes vous allez peut-être me corriger, mais dans l'accompagnement de ces mineurs non accompagnés qui n'ont pas été reconnus comme mineurs par le département, parce qu'on précise bien qu'à la frontière, quand on se présente comme mineur, c'est le département qui prend le relais.
Oui.
Il y a un examen de minorité, on peut être accepté ou refusé.
Oui.
Vous prenez en charge 8 MNA qui n'ont pas été reconnus comme mineurs.
Voilà, on prend en charge les mineurs non reconnus mineurs par le département et on les accompagne. Alors, on les accompagne juridiquement, mais surtout, on les héberge, on les nourrit, on les scolarise, jusqu'à pour qu'ils aillent puissent faire appel à la juge des enfants, appel de la décision du département, et si nécessaire, on les accompagne jusqu'à Grenoble, donc en cours d'appel.
Je vous posais la question, je vous disais très souvent, on entend ce discours qui est de dire, quand on se présente à la frontière, on dit qu'on est mineur, mais bien souvent, ce sont des personnes qui ont des barbes aussi blanches qu'une personne de 40 ans. Vous m'avez dit, mais nous, on accompagne ces mineurs dès qu'on sait que c'est sûr qu'ils sont bien mineurs.
On les accompagne à la sortie du département. Mais c'est vrai que si on a... ils se disent mineurs, on leur fait confiance au départ. Simplement, nous, on vérifie, c'est nous qui faisons venir les papiers. Et on ne les présente au juge des enfants quand on a des papiers qui vont dans le sens d'une minorité. Et quelquefois, très jeune, le dernier qu'on a accompagné, il avait 14 ans.
Il avait été refusé.
Il avait été refusé et il vient d'être reconnu mineur par la juge des enfants. Mais le département fait appel de cette décision. Donc il est placé à l'ASE actuellement.
Donc il est toujours placé à l'ASE puisqu'il est toujours
depuis la, MNA. Depuis la décision du juge des enfants, il est placé à l'ASE. Oui. Mais
le département fait appel. La
donc
décision de la justice.
Ça ira en cours d'appel à Grenoble.
Mais il a 14 ans, vous avez les documents.
Alors il vient d'avoir 15 ans.
C'est compliqué d'obtenir des documents.
C'est pas toujours facile parce que ça dépend de la situation, la raison pour laquelle ils sont partis. Ouais. Vous en avez qui partent parce qu'ils ont. Alors pour faire référence à des jeunes qu'on a eu assez récemment, pour des jeunes maliens par exemple. Alors il faut savoir qu'au Mali, l'esclavage traditionnel est illégal, mais il continue dans au moins une des régions du Mali à être vivant, on va dire. Et donc, on a eu, par exemple, un jeune dont le père est décédé. Et l'esclavage est héréditaire par les pères, aux fils aînés. Donc, son père est décédé. Il était donc, parce qu'il s'était rebiffé contre un ordre qu'on lui donnait dans le village. Donc, la maman... pour pouvoir protéger son fils de cet héritage très lourd, l'a fait partir. Donc ça, c'est une chose. On est en contact avec la maman. Après, vous en avez qui partent parce que leur famille les met dehors parce qu'il y a eu, je cherche des exemples, perte de bétail quand ils étaient, le gamin était chargé du troupeau. Et donc le père dit, tu vas nous apporter des ennuis, il faut que tu partes. Donc ça c'est plus compliqué quelquefois quand ils n'ont plus de famille sur place ou plus de famille bienveillante, c'est plus compliqué.
Oui. Il y a autant de personnes que de récits de vie que de drames.
Ah oui, et puis quel drame, vraiment, vraiment. On n'a pas beaucoup de filles, mais les filles c'est souvent, elles fuient le mariage forcé, avec des filles de 15 ans avec des hommes de 60 ou plus. Des jeunes, je me rappelle d'un jeune, nous, qui avait... Le papa avait une seconde épouse et la seconde épouse l'a brûlée à plusieurs reprises avec de l'huile bouillante. Qu'est-ce que je peux penser ? Non, ça peut être horrible, vraiment.
Des récits de vie qui sont dramatiques, je l'ai dit, mais un parcours migratoire qui est terrible aussi.
Alors, qui est terrible, actuellement, ils viennent à la fois d'Italie, mais aussi par le Maroc.
Vous m'expliquez qu'à Lampedusa, donc en Italie, on divise les majeurs des mineurs.
Oui, on sépare les majeurs des mineurs.
Oui, mais très souvent, en fait, ce sont des personnes qui voyagent... Alors, soit ils voyagent en famille,
ils peuvent voyager. On a eu le cas d'un jeune qui voyageait avec son père et le père s'est noyé dans le naufrage du bateau avant la prise en charge par un des bateaux humanitaires. Donc, il s'est retrouvé tout seul. Ça peut arriver. Vous en avez d'autres qui partent avec un oncle, une tante. Et puis, c'est pareil, qui sont séparés d'eux en Italie.
Je le disais, vous avez 8 mineurs que vous pouvez prendre en charge grâce à deux appartements qui sont mis à disposition
par le secours catholique.
Comment on arrive à être dans une association qui gère des personnes qui sont exilées sans être taxé de personnes dans l'idéologie ? Ce qui circule aujourd'hui. On est dans une association pour les personnes migrantes. Bah forcément, vous avez des idéologies.
Alors, ça m'est jamais arrivé de front. Je veux dire. Moi, mon argument, c'est un, ils sont là, il faut bien qu'on fasse quelque chose. Et deux, si c'est des enfants, ils devraient être couverts par la Convention des droits des enfants. Et un enfant, je ne laisse pas un enfant à la rue et je ne laisse pas un enfant hors de l'école. Ça, c'est l'enseignante qui parle. Et je ne laisse pas... Non, je ne peux pas. Donc, ce n'est pas de l'idéologie, c'est de la simple humanité. Et quand je mets simple humanité, ça peut être simple humanité hors toute référence religieuse ou autre. Ce qui est mon cas, c'est de la simple humanité.
Ou
je ne vois pas comment on peut regarder un gamin dans la rue et lui dire... débrouille-toi, mon vieux, tu ne devrais pas être là. Ben oui, mais il est là.
Merci beaucoup, Odile, d'avoir témoigné au micro d'Alpes 1, coprésidente de l'association Réseau Hospitalité dans les Hautes-Alpes. Merci d'avoir parlé de votre association et de vos actions. Et on se retrouve dans quelques instants pour d'autres témoignages au micro d'Alpes 1 au sein de cette journée mondiale des réfugiés. À tout de suite. On poursuit cette déloc d'Alpes 1 en direct du parc diocésain de Gapoulie à la journée mondiale des réfugiés qui se déroule jusqu'à ce soir 16h. N'hésitez pas à venir. Valérie Marot, bonjour.
Bonjour.
Éducatrice spécialisée au sein de l'ASBPI. Un acronyme, c'est violent quand même ces acronymes. C'est quoi l'ASBPI ?
Donc je précise, c'est l'accompagnement social des bénéficiaires de la protection internationale.
Ouais.
Donc de la Fondation Selzer, Edith Selzer.
Voilà. Alors, c'est important de le préciser en effet.
Voilà.
Vous ne dépendez pas de France Terre d'Asile, mais vous travaillez du coup après France Terre d'Asile.
Je travaille après France Terre d'Asile, des fois avant. Tout dépend en fait de l'orientation.
Ouais.
Parce que nous accompagnons des personnes qui sont bénéficiaires de la protection internationale.
Ouais. Alors, soit protection subsidiaire, soit réfugiés. En tout cas, ils ont été reconnus avec un risque inhérent dans leur pays qui ne leur permet pas de revenir chez eux.
Tout à fait.
Voilà. Mais alors du coup, c'est un nouveau parcours qui s'ouvre, parce que c'est vrai qu'on a l'impression dans nos têtes de dire, une fois que ça y est, ils ont le statut, bon, c'est bon. C'est les doigts dans le nez, c'est ça. Et non, pas du tout. Et c'est là où vous prenez le pas. Quelles sont leurs priorités ou leurs principales obstacles ?
Alors, nous, on arrive à partir du moment où ils ont le statut, effectivement, de protection. Ah, déjà, c'est un grand soulagement pour eux. Et on intervient également au niveau du service à partir du moment où ils ont un logement avec un contrat à leur nom. Et donc, du coup, on les accompagne dans tout, le processus d'intégration, en fait, de la prise en charge d'un logement au quotidien. Et avec également, forcément, toutes les démarches administratives qui sont inhérentes.
Oui.
C'est-à-dire, après, on les accompagne également auprès de la CAF, auprès de la CPAM, toutes les institutions, en fait, puisque s'il n'y a pas une maîtrise un petit peu de tout ça...
Ah, mais il y a une particularité française dans l'administration, c'est que c'est très lourd, et pour tout le monde.
C'est parfois un peu complexe.
Vous êtes très poli quand même de le dire de cette façon, mais en tout cas, oui, c'est très lourd. Mais en tout cas, pour être accompagné par votre service, ils doivent déjà avoir un logement, déjà avoir un contrat.
Alors, porte d'entrée.
C'est la porte d'entrée.
Pour notre service. Voilà, je pense qu'il pourrait y avoir d'autres portes d'entrée, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est la porte d'entrée, c'est le logement. Parce que ça leur permet de... Enfin, c'est à ce moment-là qu'ils quittent, justement, par exemple, le CPH de France Terre d'Asile ou le CADA. Donc, c'est un lien, en fait. C'est vraiment pour appuyer tout le travail que les collègues avant nous ont fait, mais également les assistantes sociales, les municipalités par le biais du CCAS. En fait, toute personne qui rencontre une personne qui a le statut de protégé, donc qui s'impose à tout le monde, je rappelle, bénéficiaire de la protection internationale. Voilà, on n'a pas à dire quoi que ce soit par rapport à leur statut. Peut du coup nous orienter effectivement les personnes pour qu'on puisse maintenir, soit faire découvrir le fonctionnement, appuyer, faire le lien, leur permettre de un petit peu de voir également que les institutions, il y a des personnes derrière et qu'elles sont accessibles.
Et oui, parce qu'il y a aussi une peur de l'administration.
Oui.
Quand on a ce parcours-là, forcément, il y a quand même un peu de crainte.
Un petit peu quand même. Et puis puis du coup, ça fait un échange et on est là pour faire un petit peu vraiment le lien, pour avoir aller régulièrement à la CAF, enfin avoir des personnes soit par téléphone ou par mail. Je veux dire, on apprend du coup à se connaître.
Vous accompagnez combien de personnes aujourd'hui ? À peu près.
Ouais, vraiment à peu près.
À peu près.
Il y a, je dirais, officiellement et non officiellement. Officiellement, moi, j'ai une capacité de 15. Donc, on ne parle pas forcément de personnes. Comme pour Agir, par exemple, où c'est au nombre de personnes, où c'est au nombre de familles. Donc, on a des familles de 5, mais on a des familles de 2.
Voilà, d'où nous, officiellement et non officiellement, en effet, ça se module, en effet.
Non, c'est plus les personnes qui ont vraiment repéré également le service.
Ouais.
Comme étant une ressource.
Et qui continue de vous solliciter derrière.
Voilà.
Merci.
Donc ça, du coup, voilà. merci un nombre de personnes et d'accompagnement quand même, puisqu'on réoriente après.
Voilà. Merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Éducatrice spécialisée au sein de l'ASBPI, donc vous l'avez bien compris, qui prend le relais une fois que la protection internationale est là pour les réfugiés, les apatrides, les protections subsidiaires. Bien, vous êtes là pour les accompagner dans cette nouvelle vie qui s'ouvre à eux. Merci à vous.
Merci.
Et retour dans cette déloc d'Alpe 1 au sein du parc diocésain de Gap où se déroule jusqu'à 16h la journée mondiale des réfugiés. Et j'accueille au micro Alpe 1 Elvire. Bonjour.
Bonjour.
Vous faites partie de Agir. Alors on va expliquer. Agir, parce que c'est un petit peu complexe, mais ça fait partie de France Terre d'Asile. C'est un service qui a obtenu une... Alors est-ce que c'est une délégation de service public ? Comment ça se passe ? Parce que c'est l'État qui avait lancé un appel pour cet accompagnement, on va en le préciser dans quelques instants, mais en tout cas vous répondez à l'État.
Exactement, oui, voilà, donc Agir, ça, c'est un... donc, ça veut dire accompagnement global et individualisé des personnes réfugiées. Donc ça s'est déployé dans tous les départements de France. Donc il y a un financement des dettes donc de l'État. Oui. Et les personnes qui sont orientées sur Agir, c'est l'OFI qui les oriente quand elles ont un statut de réfugié donc obtenu en 2024 ou 2025. Et du coup, c'est un accompagnement qui peut durer 2 ans. Donc on est 2 professionnels à Gap. On a commencé depuis le début de l'année sur tout le territoire des Hautes-Alpes. Voilà, donc on accompagne les personnes donc, qui ne sont pas qui ont soit un logement, un appartement, soit qui sortent d'un CADA ou d'un CPH, du coup suite à l'obtention de leur statut, ou qui sont aussi avec Coalia en hébergement d'urgence ou en CHRS.
On l'a dit, vous l'avez très bien dit, ce sont des personnes qui ont un statut de protection internationale, soit des réfugiés, soit protection subsidiaire, soit des apatrides, mais il n'y en a pas forcément dans les Hautes-Alpes. En tout cas, très peu de personnes m'ont dit aujourd'hui oui, il y a des apatrides. En tout cas, ce sont des personnes qui ont bel et bien un statut. Mais comme on le disait, c'est pas parce qu'on a un statut de protection internationale que pour autant tout est fini. C'est un véritable parcours du combattant. Après, par la suite, c'est quoi qui est le plus compliqué pour eux ? Et d'ailleurs, selon les individus aussi, parce qu'il y a des personnes qui sont seules, parfois en famille aussi, donc forcément c'est un travail encore plus complexe.
Effectivement, en fait, la demande d'asile est peut-être très longue et difficile, ça on le sait. Quand les personnes obtiennent un statut, donc c'est l'OFPRA qui leur accorde ce statut, mais ensuite il faut qu'elles fassent des démarches pour obtenir un titre de séjour, donc auprès de la préfecture, à travers un site, parce que toutes les démarches maintenant sont dématérialisées, qui s'appelle l'ANEF, qui est assez complexe pour une personne qui ne sait pas, même qui sait manier l'informatique, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit demander.
Non plus,
exactement. Donc, il faut obtenir un titre de séjour, il faut ouvrir ses droits. On a des droits, du coup, des prestations sociales, des droits RSA. Il faut s'inscrire à France Travail, il faut s'actualiser. Enfin, voilà, il faut faire une demande de logement social.
C'est déjà compliqué pour nous, alors, en effet, ça doit
donc,
être
en fait,
encore plus
complexe pour eux. Donc, en fait, toutes ces démarches... Nous, notre rôle va être d'accompagner les personnes à être autonomes, à comprendre le fonctionnement, l'administration française et à pouvoir, s'installer confortablement.
Vous me disiez, alors il y a certains réfugiés qui ont déjà un logement, mais par contre, il y a d'autres réfugiés qui ne sont pas forcément dans les logements pérennes, qui sont à l'hôtel, qui sont dans des campings aussi.
Bien sûr, donc à Gap, dans les Hautes-Alpes, on va dire, il y a quand même pas mal de solidarité, de dispositifs en place, et l'hébergement d'urgence permet d'héberger les personnes dans un hôtel. Mais dans les grandes villes, il y a beaucoup de gens réfugiés à la rue. Parce qu'en fait, il n'y a pas de moyen d'accompagner ces personnes, de les loger. Donc c'est pour ça qu'Agir a été mis en place. Et dans les grandes villes, vraiment, les personnes, lorsqu'elles ont un logement ou un emploi assez durable, elles sortent du programme. Elles ne sont plus accompagnées. Alors que nous, dans les Hautes-Alpes, on a la chance de pouvoir accompagner les personnes dans leur installation, dans le logement, à sécuriser les choses, en lien après, petit à petit, avec le service public, c'est-à-dire les assistantes sociales de secteur, pour qu'après, ils aient repéré les personnes qui peuvent les aider.
Est-ce qu'au bout de 2 ans, vraiment, l'accompagnement est véritablement fini ? 2 ans, c'est long, mais c'est court à la fois aussi.
Je pense que pour certaines personnes, oui, parce que moi, ce que je dis d'emblée, c'est que y a même la plupart des Français ont besoin des fois d'aide au niveau administratif, parce que les démarches sont compliquées, parce qu'elles changent, parce qu'on a du mal. Donc il y a des services publics comme les maisons France Service, les assistantes sociales de secteur, On peut aller dans les administrations directement, demander de l'aide avec la CAF, on n'y arrive pas, il y a quelque chose qui bloque. Voilà. Mmh. Donc nous, c'est donner confiance aux personnes, enfin, qui est importante, les accompagner et en fonction des étapes de leur insertion, de leur autonomie. C'est vrai qu'une personne qui va maîtriser la langue française aura vraiment plus de facilité après à se débrouiller. Donc nous, on s'appuie aussi sur les forces des personnes et on les encourage à leur dire qu'elles vont, elles vont s'en sortir. Une fois qu'elles ont un logement, moi, je pense que c'est vraiment la porte d'entrée pour se poser, se sentir en sécurité. Et ensuite, l'emploi, on a quand même un territoire avec des possibilités d'emploi via les saisons. Voilà, donc y a, nous, on accompagne dans tous ces domaines-là. Et 12 ans, c'est pas mal. Après, pour certains, ça va être... Il y aura besoin de plus de temps, mais ça veut dire que du coup, sur cette période, on va être plus présent aussi.
Merci beaucoup, Elvire, d'avoir été avec nous. Je rappelle du service Agir, ça fait partie de France Terre d'Asile. Ce sont pour les personnes qui ont le statut BPI, c'est-à-dire de protection internationale, Agir, qui est un dispositif déployé par l'État dans tous les départements de France. Merci beaucoup d'avoir été au micro d'Alpe 1.